Au XVIIe siècle, pour cultiver ces vastes terres, la chefferie druze accueille dans le sud du Mont-Liban une main-d'œuvre chrétienne venue du nord du pays. Deux siècles plus tard, les rapports entre les chrétiens en plein essor démographique et socio-économique et les druzes, jaloux de leur rang social et privilège, se redéfinissent dans la violence. Les affrontements entre 1840 et 1860 culminent avec le massacre de plus de 12 000 chrétiens dans le Mont-Liban et la Bekaa Sud. En 1982 et 84, donc presque 150 ans plus tard, dans le Liban en guerre, la guerre de la montagne oppose les miliciens chrétiens des forces libanaises aux druzes partisans de Walid Jumblatt dans le Mont-Liban Sud, qu'on appelle communément la montagne. Dans la foulée du retrait israélien de cette zone mixte, donc druso-chrétienne, en septembre 1983, des massacres coûtent la vie à plus de 1500 civils chrétiens et 207 civils druzes. Plus de 230 000 chrétiens sont expulsés de leur village entre 1982 et 1985, le plus important transfert de population de la guerre du Liban, de la guerre de 75-90. La fin des hostilités armées en 90 et les réconciliations officielles n'ont pas entamé la méfiance entre druzes et chrétiens. 35 ans après les faits, elle est toujours palpable, visible, voire audible, véhiculée par le biais de propos passionnels ou de non-dits, mais aussi par le biais d'anecdotes et de dictons qui contribuent en fait à perpétuer la méfiance entre druzes et chrétiens. Une méfiance qui incarne la violence symbolique que constitue pour les druzes et les chrétiens le souvenir de leurs affrontements cycliques. Basé sur plus d'une centaine d'entretiens menés entre 2004 et 2010, je propose de m'attarder sur les anecdotes et dictons en circulation au sein des communautés druzes et chrétiennes comme expression des représentations croisées et des mémoires antinomiques. Au début, donc, voilà, l'anecdote, faire passer ce qui ne passe pas à travers le trait d'esprit. Un respectable druze est informé d'un massacre de chrétiens qui a lieu dans son village. Il cherche désespérément un chrétien pour le tuer, mais beaucoup ont déjà pris la fuite. Seul son voisin, resté sur place, compte sur lui pour le protéger. Le druze se déclare obligé de le tuer. Le chrétien le supplie de l'épargner au nom du pain et du sel, partager une vie durant. Son voisin le rassure tout en lui mettant le couteau sous la gorge. Tu verras, ça ne fera pas plus mal qu'une piqûre de frelon. Dans la même veine, un druze alerté par ses coreligionnaires du début d'un massacre de chrétiens se précipite chez son voisin chrétien. « Je suis ton voisin le plus proche. Qui a plus que moi le droit de te tuer ?» Ces anecdotes, parmi d'autres, exprimant le meurtre voisin, circulent en milieu chrétien. En apparence variée, toutes relèvent de la même problématique. Une anecdote est une particularité historique qui se raconte plaisamment. Elle se retient et se transmet aisément, car elle mêle humour et horreur. Des histoires véridiques cruelles ont été euphémisées sous forme d'anecdotes et ainsi vider de la peur, l'inquiétude, la gêne et l'incompréhension qu'elles peuvent autrement susciter. Le message devient implicite et par conséquent dépassionné, tant au niveau de l'émission que de la réception. Lorsqu'un chrétien raconte ses anecdotes, il prend l'accent druze pour citer le protagoniste druze. C'est un accent bien spécial. Ceci donne de la véracité aux propos, accentue le caractère anecdotique de la situation et marque la distinction entre chrétiens et druzes. La mise en scène est réussie, qui amuse tout en faisant passer le message. Exorcisés ainsi de leur gravité et lugubrité, ces histoires transcendent les générations et les frontières sociales et spatiales, mais selon un adage bien libanais, une plaisanterie est à deux tiers vraie. Ces anecdotes à l'humour noir transmettent donc clairement, avec une apparente légèreté, une leçon essentielle à la survie des chrétiens en zone mixte. Sans doute, ces anecdotes ne sont pas nées du néant. Elles sont le produit d'une légendarisation d'événements réels, tus, occultés ou oubliés. Dès lors qu'elles noient l'expérience individuelle dans le collectif, l'anecdote fait sentir aux chrétiens qu'il n'est pas seul dans son statut de victime. Mais parfois, des chrétiens s'approprient l'anecdote pour l'authentiquer. Le protagoniste chrétien devient un membre de la famille ou un proche de l'interviewé. L'anecdote devient alors cet espace collectif où il parvient à verbaliser sa propre expérience de victime. Le légendaire est approprié et ainsi authentiqué. L'anecdote, dans la mesure où elle sourd de plusieurs expériences individuelles qu'elle a fait fondre dans une histoire collective en apparence cocasse, et qu'en retour elle se laisse approprier par un individu, constitue un lieu où les frontières se brouillent entre le vrai et le légendaire, l'individuel et le collectif. Véronique Naoum-Grapp explique que lors de l'acte de violence, la proximité entre les groupes accroît la cruauté, puisque ce type de violence est investi d'une dimension affective. Un cher Druze a bien compris l'enjeu de l'investissement affectif derrière l'évacuation de la rancune sur le proche. Il explique, je cite, « L'excès de rancune et de ressentiment nourri depuis des décennies s'évacue toujours sur celui qui est le plus proche. S'il s'évacue loin, il perd de sa puissance et de son effet. Ainsi, nos voisins et amis chrétiens en ont payé le prix. » Fin de citation. En fait, au Liban, on massacre qui on peut, pas nécessairement qui on veut. Comme l'avait dit Jonathan Randall, et comme l'exprime l'aphorisme répété par les chrétiens, « Jiha, un nom propre, ne s'en prend qu'à sa vieille tante. » Dans les deux anecdotes citées plus haut, le Druze a le dernier mot, et on peut aisément imaginer la suite de l'histoire. Mais d'un autre côté, l'euphémisme est indulgent à l'égard des Druzes, car il renvoie le meurtre voisin à une impulsion, un mimétisme et une obligation communautaire. Le persécutant, bien qu'essentialisé à outrance, n'agit pas par haine, rancune ou ressentiment, comme on peut le supposer, mais rend service à la victime émissaire en lui épargnant la douleur et la souffrance qu'un étranger peut infliger. De plus, il donne à l'âme de la victime la chance d'être sauvée en se réincarnant dans un corps druze, car les chrétiens admettent largement que le druzisme stipule qu'une âme incarnée dans un corps chrétien souffre. Nafsuhu tata'allam. Une anecdote décrit un druze qui héberge son ami chrétien. Au milieu de la nuit, il se lève, mu par des impulsions, par des pulsions meurtrières. Alors, il réveille son ami en catastrophe et le somme de partir sur le champ, car il ne peut plus se maîtriser et risque de le tuer. Une variante de cette anecdote décrit qu'un druze suivant son ami chrétien le somme de marcher derrière lui pour éviter de céder à la tentation de le poignarder dans le dos. Ces anecdotes portent atteinte à la séculaire hospitalité tribale druze. Les Banu Ma'rouf, ou fils du bienfait, ne sont plus dignes de confiance. Chrétiens et druzes tombent d'ailleurs d'accord pour dire que si un druze n'oublie pas une bonne action, il n'en oublie surtout pas une mauvaise. Confirmant un dicton répandu, le druze ne dort pas sur un préjudice. Œil pour œil, dent pour dent, tandis que les chrétiens se targuent, eux, d'agir selon leur précepte, celui qui te frappe sur la joue droite, tourne-lui la gauche. Ainsi apparaît-il dans l'imaginaire chrétien que le druze sait qu'il est imprévisible, puisqu'il avertit le chrétien de l'imminence de son acte, tandis que celui-ci, le chrétien, demeure confiant, presque dupe, ne tirant pas les leçons du passé et continuant de vivre à proximité du druze, comme engoncé dans un cercle vicieux. L'anecdote joue sur le paradoxe amour-haine. Elle est indulgente à l'égard du druze qui cherche à aviser sa victime potentielle de sa pulsion instinctive et suggère que les druzes sont conditionnés et donc pas libres de leurs faits et gestes. Les anecdotes stéréotypées résument et condensent l'essentiel de l'expérience des chrétiens avec les druzes et leur permettent de transmettre ce qui fait mal sans pour autant couper les ponts avec les druzes. Elles alimentent certes la méfiance, mais favorisent le dépassement de la haine et la peur qui empêchent les chrétiens de vivre sur la terre de leurs ancêtres. L'acte cruel, atténué par l'humour, est néanmoins exprimé. En milieu druze, aucune anecdote de cet acabit ne m'a été communiquée. Les histoires réelles de violences intimes prévalent dans les deux communautés. Beaucoup plus rares sont celles du bon voisinage. Rarement des chrétiens racontent que des druzes les ont cachés ou aidés à s'échapper durant les massacres. Mais ce sont surtout des druzes qui relatent comment ils ont sauvé des voisins ou amis chrétiens d'une mort certaine, sans se douter qu'ils confirment, en creux, la violence commise à l'encontre des chrétiens. Les dictons plus graves, ruse, fourberie et traîtrise. Autre expression de la mémoire, le dicton exprime sous forme imagée une vérité d'expérience d'origine populaire, passée en proverbe dans une région donnée. Plus solennel et explicite que l'anecdote, il résonne comme un précepte, une règle morale à ne pas transgresser. Mange chez le druze et dors chez le chiite, est le dicton le plus répandu en milieu chrétien. Il intègre le chiite, troisième occupant de la montagne, comme élément de comparaison. Les chrétiens font plus confiance aux chiites qu'aux druzes, sans toutefois boycotter le voisin druze, avec qui on garde un lien de commensalité. Ce dicton renvoie à l'anecdote du druze qui réveille son ami chrétien dans la nuit et le pousse à partir pour éviter de le tuer. Le message est clair. Le druze est imprévisible, il faut toujours avoir les yeux grands ouverts face à lui. Sa variante, dîne chez le druze et dort chez le musulman, pousse l'heure du repas jusqu'à passer la soirée chez le druze, mais pas la nuit. Le dicton sonne comme un avertissement typique de la représentation que se font les chrétiens des druzes. Pour eux, il vaut mieux accorder sa confiance aux musulmans chiites ou sunnites. Ces dictons ont leur variante en milieu musulman. Dîne chez le druze et dort chez le nazaréen. La réciprocité que se renvoient chrétiens et musulmans est symptomatique de leur commune méfiance à l'égard des druzes. Souvent, les chrétiens s'y prennent de cette façon. Tu ne sais pas ce que disent les musulmans. Ils disent « dîne chez le druze, mais dort chez le chrétien ». On fait parler les autres extérieurs au nous communautaire, mais qui pensent comme nous. Pour exprimer un sentiment négatif à l'égard de l'autre, on l'attribue à un groupe tiers. La généralisation du sentiment négatif lui donne une plus grande incidence et le légitime. Donc, il donne plus d'objectivité aux propos et épargne à son auteur culpabilité et stigmatisation. D'autres dictons plus explicites expriment la méfiance à l'égard des druzes en milieu chrétien et musulman. Tels que le druze poignarde dans le dos, le druze fusse sur une terre en friche n'est pas digne de confiance. Dors à côté d'un serpent, mais pas chez un druze. Les réactions que suscitent ces anecdotes et dictons chez les druzes sont variées. Déni, lassitude, justification, réinterprétation, gêne et colère. Leur gravité et solennité heurtent la sensibilité et la fierté des druzes qui se défendent d'être imprévisibles et indignes de confiance. L'un d'eux cherche une explication. Ce sont des dictons connus à la base, bienveillants. Ils sont devenus péjoratifs durant la guerre. Il faut manger chez les druzes car ils sont généreux et cuisinent bien, et dormir chez les chrétiens parce qu'ils ont souvent de belles et grandes maisons. Mais ce n'est certainement pas pour dire que les druzes sont indignes de confiance. Fin de citation. Mais mon interlocuteur ne réussit pas à expliquer la variante de dormir chez les chiites, et il l'escamote. Un autre se fâche. Les druzes ont souffert de l'anecdote « mange chez le druze et dors chez le chrétien ». Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on ne peut pas faire confiance à un druze? Cette anecdote a duré 150 ans, ça suffit. Les druzes rendent par ailleurs la balle aux chiites en déclinant le dicton de cette façon. Dîne chez le chiite et dort chez le chrétien. Donc chiites et druzes tombent d'accord pour ne pas se faire mutuellement confiance et faire confiance aux chrétiens. Un vieux dicton circulait en milieu druze depuis que les chrétiens s'y étaient installés. Un village sans chrétiens, quelle perte! Dans le sens, ça n'amène pas de la prospérité. Donc, un sens économique, puisque les chrétiens faisaient fructifier les terres druzes. Ce dicton n'est plus courant en milieu druze, mais les druzes le prononcent devant les chrétiens pour les rassurer de leurs bonnes intentions. Il fut donc employé lors des réconciliations dans l'après-guerre pour encourager les chrétiens à retourner dans la montagne. Un interlocuteur druze argua cependant que le dicton était faux et que le vrai dicton avait cette forme. Un village sans chrétiens, pas de perte. Signifiant qu'il valait mieux avoir des villages entièrement druzes que des villages mixtes. L'ancienne distinction sociale impose une vision encore prégnante dans la montagne. Les chrétiens étaient les obligés des druzes. Les druzes les accusent d'être ingrats, des ingrats qui se sont retournés contre leurs anciens maîtres et bienfaiteurs. En témoigne ce dicton en milieu druze qui n'est plus usité depuis l'expulsion des chrétiens en 1983. Aime le chrétien tant que tu as besoin de lui et quand tu peux, renverse le mur sur lui. Il constitue une variante locale du proverbe arabe « La main que tu ne peux briser, baise-la et souhaite qu'elle se brise ». qui s'applique à toute situation de dominant dominé et renvoie à la pratique de la taqiyya en Orient, c'est-à-dire se conformer à la loi de la majorité. Mais la différence entre les deux proverbes, c'est d'abord la question du besoin et ensuite la question du passage à l'acte. Souhaiter que la main du dominant soit brisée relève de l'intention, tandis que détruire le mur sur lui est déjà un passage à la violence. Le besoin a incité les chefs druzes à accueillir les chrétiens tant que leur statut social était préservé. La peur de perdre leur domination face à la force montante chrétienne justifie donc de se débarrasser d'eux. Plusieurs chrétiens connaissent ce dicton qui circule chez les druzes. Ils le citent comme argument réprouvant l'attitude druze et dénonçant l'hostilité des druzes à l'égard des chrétiens. « Les druzes te ménageront tant qu'ils ont besoin de toi et tant que tu seras plus fort qu'eux. » Une autre citation. « Généralement, lorsque le druze sent que son coup tue, il frappe. Lorsqu'il sent que son coup lui sera rendu, il s'arrête. » Troisième. « Le druze est un lâche. Il ne te portera un coup que quand il est sûr qu'il sera fatal. » La perception péjorative des druzes qui prévaut chez les chrétiens est à comprendre à travers la frustration de leur perte militaire face aux druzes et des massacres subis. Ainsi attribués à la ruse et à l'opportunisme, les victoires druzes sont rendues moins honorables et donc moins héroïques, ce qui justifie l'emploi chez les chrétiens de l'aphorisme « Jeha ne s'en prend qu'à sa vieille tante ». Le premier est lié à la proximité et le second au fait que les druzes ne s'attaquent en général qu'aux plus faibles. D'où la conviction de certains chrétiens d'être le maillon faible dans un environnement musulman hostile et par conséquent une proie facile pour les druzes. Les druzes ne remettent pas en cause l'emploi de la ruse, ni le choix d'un moment propice pour frapper. Bien qu'ils se perçoivent comme un peuple de vaillants guerriers, ils confirment ne jamais s'engager dans une bataille perdante pour épargner à leur petite communauté des pertes inutiles. Du reste, la doctrine druze ne privilégie pas la confrontation directe, mais la taqiyya. Ce principe religieux permet aux croyants de se préserver en dissimulant leur foi en cas de menace, en adhérant en apparence à la religion de la majorité, en gardant une neutralité politique, hiyad, ou en se ralliant aux vainqueurs. Les préceptes druzes tels que la taqiyya et l'esprit de corps, al-asabiyya, favorisent chez les chrétiens une représentation stéréotypée péjorative des druzes, dont le caractère est l'imprévisibilité. Les anecdotes et dictons reflètent pleinement les représentations que se font les uns des autres chrétiens et druzes, leur permettant de déjouer le silence que leur impose l'irénisme historiographique, donc la mémoire officielle. Euphémisme, imagé d'histoire tragique vraie, il véhicule ce qui se pense tout bas et dont la formulation explicite mettrait en péril la normalisation des relations encouragées par les autorités officielles. Par leur biais, les membres d'une communauté se transmettent une mise en garde discrète, essentielle à leur survie, au prix certes d'une essentialisation de l'autre. Analysées à travers les dictons et les anecdotes, les représentations et les mémoires permettent de mieux appréhender un voisinage problématique entre communautés qui oscille entre convivialité forcée et implacable cruauté. Merci.